pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, voilà une institution qui démontre la place que nous, les humains, avons prise dans l'écosystème mondial. La CITES, c'est l'acronyme de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. La CITES, donc, tente depuis plus de 40 ans d'imposer des règles pour enrayer la quatrième activité illégale la plus lucrative au monde, le trafic d'espèces sauvages. Les représentants de 182 pays se sont réunis pour édicter de nouvelles règles du 24 septembre au 5 octobre dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud. Pour quel bilan ? Nous en parlons avec nos invités. Bonjour Charlotte Nita.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'Association de protection de l'homme et de l'environnement Robin des Bois. Alors avec votre bulletin à la trace, vous exercez une veille attentive, il porte bien son nom, sur ce trafic des espèces. Est-ce que l'on peut en évaluer l'ampleur ?
Oui, il y a des chiffres, notamment par des organisations onusiennes qui parlent d'à peu près 100 milliards de dollars de trafic par an d'espèces menacées. Alors, c'est la faune, les éléphants, les rhinocéros, les pangolins, etc. Mais c'est aussi beaucoup de pêche illégale et d'abattage illégal de bois et trafic d'espèces végétales. Maintenant, c'est extrêmement difficile d'avoir une photographie précise de ce marché clandestin, bien entendu.
Mais il est en pleine expansion,
avec des volumes importants, avec des échanges mondiaux de plus en plus intensifs, avec des difficultés d'adapter les contrôles. C'est-à-dire que, par exemple, dans les ports, il y a des porte-conteneurs géants. Il y a à peu près 20 millions de conteneurs en circulation sur les océans mondiaux. Et bien entendu, dans les ports, il n'y a pas les moyens de contrôler tout ce petit monde. Dans les aéroports, c'est aussi un problème, mais on voit bien que les mailles du filet sont assez lâches.
Et ce trafic aujourd'hui serait au quatrième rang des trafics illicites dans le monde, après la drogue, la traite des êtres humains et les armes sans doute.
Ouais.
Voilà, donc on voit bien que quand même l'ampleur est extrêmement importante.
C'est un trafic extrêmement important et qui est parfois fait par les mêmes personnes. C'est-à-dire que il y a un avantage, si je puis dire, à faire du trafic d'espèces menacées pour quelqu'un qui donne dans les activités illicites, parce que si vous faites prendre, vous risquez beaucoup moins que si vous trafiquez de la drogue, alors que ça peut vous rapporter autant.
Alors, d'où l'importance des réunions comme la CITES, hein, je le disais rapidement, qui édictent les règles. Alors, ces réunions, elles ont lieu tous les 2 ou 3 ans. Vous pouvez nous en rappeler le rôle ?
Alors, tous les 3 ans à l'heure actuelle, là, c'était 3 ans et demi, ce qui est trop. Et la CITES, donc, vous l'avez dit, c'est 182 pays. C'est aussi beaucoup d'organisations non gouvernementales. Alors, bon, comme Robin des Bois ou d'autres, mais aussi des associations de promotion de la chasse, des associations de médecine traditionnelle chinoise, de fourreurs, etc., qui se réunissent.
Il y a beaucoup de jeux d'influence.
Jeux d'influence et beaucoup d'associations de prédateurs, si on peut dire, qui des fois d'ailleurs ont le terme prédateur dans leur nom.
Ça doit être sympa l'ambiance dans les couloirs.
C'est très sympa, c'est très, très divers, on va dire. Et qui se réunissent, jeux d'influence, jeux de couloirs. Et bon, seuls les États, bien entendu, ont un droit de vote au final. Et il s'agit principalement de décider quelles sont les espèces qui vont être inscrites dans les annexes de la CITES. Il y a 3 annexes. L'annexe 1, c'est interdiction du commerce international. L'annexe 2, c'est contrôle du commerce, c'est-à-dire qu'il vous faut concrètement un permis d'importation, un permis d'exportation. Et annexe 3, elle est plus rare, mais elle est aussi très utile. C'est unilatéralement, donc là, ça passe pas par les réunions tous les 3 ans, mais unilatéralement, un pays décide d'inscrire une espèce à l'annexe 3 pour demander de l'aide aux autres pays pour essayer d'évaluer le commerce et de voir s'il est nécessaire de prendre des mesures de gestion et de contrôle du commerce plus tard. Donc, disons que les 2 principales annexes, c'est les annexes 1 et 2, et il y a 35 000 espèces qui sont inscrites en tout, majoritairement des espèces végétales, et sont sous-représentées les espèces marines, les poissons. Depuis quelques années, la situation se détend un petit peu avec des inscriptions notamment de requins et de raies aux annexes, annexe 2 et annexe 1, mais ça a été très difficile, et alors que bon, la surpêche est un gros gros problème. Il y a la surpêche à des fins alimentaires et aussi pour l'aquariophilie qui est un commerce considérable.
Pour avoir des beaux aquariums dans son salon.
Exactement.
Et qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan de cette CITES qui vient de se dérouler à Johannesburg? Alors, on ne va pas inventorier les 35 000 espèces, évidemment, mais je crois qu'il y a eu une grosse victoire pour le pangolin. On va rappeler ce que c'est le pangolin, tout le monde ne connaît pas.
Alors, le pangolin, c'est le seul mammifère à écailles qui vit sur Terre. C'est un animal qui fait à peu près entre 1 mètre et 1 mètre 50. Il y a 8 espèces de pangolins. Il y en a 4 qui vivent en Afrique et 4 qui vivent en Asie. Et ça a des écailles. C'est un mammifère qui a un rôle très important dans l'écosystème puisque ça mange des insectes et principalement des fourmis. C'est à peu près 70 millions de fourmis qui sont mangées par un pangolin chaque année.
Wow.
Donc ça a un rôle vraiment considérable. Cet animal, ce petit mammifère, est harcelé pour ses écailles qui sont considérées comme ayant des vertus médicinales, de soins très divers, aphrodisiaques, santé mentale et autres, mais aussi pour ses yeux qui sont considérés guérir la kleptomanie, le sang qui est censé être un tonique.
C'est-à-dire que si on est kleptomane, on mange des yeux de pangolin,
voilà, c'est
et
ça,
c'est fini.
Et, c'est, et vous avez une grande chance de vous en sortir.
Quoi.
De toute façon, c'est un point commun qu'on voit pour toutes les espèces. Quand il est question de médecine traditionnelle, il y a vraiment des promoteurs, des charlatans qui essayent de surfer sur la vague aphrodisiaque. Alors ça, c'est un marché mondial considérable, apparemment. La vague aussi anticancéreux. Et on voit aussi émerger, depuis quelques années, une vague anti-sida, avec des rumeurs comme quoi, par exemple, il n'en a pas été question pendant cette réunion, mais on le sait, la moelle épinière de girafe guérirait du sida. Il y a des rumeurs comme ça qui sont lancées par des espèces de publicitaires et de marchands de parties d'animaux. Et c'est extrêmement difficile après de contrer une rumeur. Le rhinocéros est une des victimes de ces rumeurs avec la rumeur comme quoi ça guérirait du cancer, ce qui est absolument faux.
C'est sur sa corne.
C'est sur sa corne, ouais. Absolument. Alors que manger de la corne du rhinocéros, c'est à peu près comme se ronger les ongles. C'est de la kératine. Il y a beaucoup de rumeurs et les espèces, tant animales que végétales, sont prises dans un étau entre les rumeurs magie noire, sorcellerie, médecine traditionnelle et autres. Et par ailleurs, la modernisation des moyens pour les attaquer, pour les piéger, pour les tuer, avec notamment des armes de guerre, armes automatiques et autres, avec aussi la modernisation du marché avec Internet. Il y a un étau qui se resserre et qui mène au bord de l'extinction bon nombre d'espèces.
Alors ce pangolin, quand
ce
même,
pangolin,
ça a été une bonne nouvelle.
Ça a été une bonne nouvelle. Le pangolin a bénéficié d'une trêve, on va dire, d'un consensus. Et toutes les espèces ont été inscrites en annexe 1. Donc ce qui veut dire que maintenant, le commerce international des écailles de pangolin est interdit. Bien entendu, là aussi, il y a des enjeux après de suivi et d'application de ces règles. Mais en tout cas, c'est une mesure de protection qui était nécessaire. Seule l'Indonésie a souhaité s'opposer et a sollicité un vote pour le pangolin malais, mais étant donné que lors du résultat, ils étaient les seuls à voter contre, toutes les autres propositions étaient acceptées par consensus.
Oui, parce que c'est un vrai jeu d'influence politique, en fait. Hein.
C'est un vrai jeu d'influence politique avec parfois les espèces menacées qui sont très loin des débats. Il y a des enjeux, il y a des alliances opportunistes. Je te défends le commerce des faucons pèlerins. Toi, en échange, tu me défends le commerce des ailerons de requins. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que la biologie et les menaces sur les espèces qui sont prises en compte très loin de là.
C'est pas du vent sur RFI.
Vous écoutez donc C'est pas du vent sur RFI. Nous faisons le bilan de la réunion de la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, qui s'est tenue il y a 2 semaines à Johannesburg en Afrique du Sud. Alors Charlotte Nittard, on le disait, toutes les espèces de pangolins ont été classées en annexe 1. La question, c'est comment se traduisent concrètement les décisions de la CITES?
Alors, une fois que la réunion plénière est terminée, chacun rentre dans son pays et chaque État doit intégrer dans sa législation nationale les décisions qui ont été validées. Concrètement, par exemple, la France va transcrire en droit national cette inscription et doit diffuser l'information auprès de tous les organismes de contrôle, en particulier des douanes, pour que lorsque il y aura des écailles de pangolin qui seront repérées dans une cargaison, eh bien la cargaison soit immédiatement saisies et, nous l'espérons, détruites. Donc ça nécessite bien entendu des moyens de contrôle qui sont insuffisants à travers le monde. Il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres, par exemple les États-Unis qui quand même mettent des moyens financiers importants pour le contrôle et les enquêtes relatives au trafic d'espèces menacées. Et ça veut dire donc de l'argent. Et c'est vrai que là, le bât blesse et que malheureusement, même dans des pays qui ont une administration structurée avec des fonctionnaires qui sont bien payés, enfin, les contrôles ne sont pas de toute façon assez nombreux.
Oui, et puis une fois qu'on a été pris la main dans le sac, encore faut-il que les peines soient appliquées. Hein. Et pour ça, il faut une vraie mobilisation pour démanteler les trafics et arrêter les trafiquants et faire en sorte qu'ils soient condamnés. C'est le principe du réseau Eagle qui se bat dans 9 pays africains pour que les lois justement contre les trafics d'espèces sauvages soient appliquées. Nous sommes en ligne avec Eric Kabata de l'ONG camerounaise LAGA. Bonjour.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes directeur adjoint de l'ONG LAGA qui fait partie donc de ce réseau Eagle. Expliquez-nous comment fonctionne le réseau.
Bon, en tout cas, le réseau Eagle, c'est un ensemble de projets qui font dans l'application de la loi FONIC. Donc, nous assistons les gouvernements africains à appliquer la loi FONIC. Donc, on est regroupé au sein du réseau Eagle, qui compte aujourd'hui 9 pays.
Alors vous travaillez au Cameroun hein, avec votre ONG. Je signale au passage d'ailleurs que vous êtes actuellement à Limbé pour présenter ce réseau à l'occasion des 10 ans du programme des petites initiatives qui est dédié au soutien des organisations de la société civile africaine. C'est un programme dont on a souvent parlé dans l'émission, qui est financé par le Fonds français pour l'environnement mondial et qui est mis en œuvre par le comité français de l'UICN et le programme Afrique centrale et occidentale de l'UICN. Et donc, ce réseau Eagle, comment il se concrétise au Cameroun, par exemple?
Au début de tout cela, il a fallu la réflexion autour du question de l'application propre, c'est-à-dire effective, de la loi FONIC au niveau du Cameroun. C'est-à-dire, avant 2003, il y avait une loi de 1994, une loi sur la faune, c'est-à-dire une loi FONIC qui existait, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de poursuites judiciaires, il y avait la criminalité FONIC. Personne ne s'engageait plus contre ces criminalités. On a fait donc ce constat. L'idée est donc venue de créer un modèle qui va assister le gouvernement camerounais à appliquer ces lois. À partir de ce moment qu'on a fait ces collaborations, on a commencé ces collaborations, on a constaté un changement direct sur le terrain. C'est-à-dire, on a commencé à voir les poursuites judiciaires, des arrestations, des poursuites judiciaires contre la criminalité policière, qu'on considère comme la cause principale de l'inspection des pays des espèces foniques en Afrique.
Qu'est-ce que l'on risque au Cameroun, par exemple, si on est arrêté avec des espèces sauvages qu'on essaye de vendre ou qu'on a cachées dans le coffre de sa voiture?
La loi est très claire, c'est-à-dire si tu es trouvé en détention d'une espèce ou d'une partie d'une espèce protégée, vous courez le risque d'être emprisonné pour 1 à 3 ans d'emprisonnement ferme et ou de 3 millions à 10 millions de francs.
Est-ce que, justement, cette loi est vraiment appliquée?
C'est le but. C'est là où notre organisation vient en jeu, puisqu'il y a cette loi qui est assez claire, assez correcte. Et jusqu'aujourd'hui, on constate que même l'application de cette loi est minée par la corruption, puisque le principal problème de l'application de la loi FONIC en Afrique, c'est la corruption. Dès le moment où vous êtes dans une situation où un trafiquant est arrêté, vous voyez le trafiquant et sa famille essaye de négocier, essaye de payer le pot de vin pour passer. Ça, c'est la petite corruption. La grande corruption, on constate qu'il y a les grands criminels qu'on connaît, que les autorités n'arrivent pas à faire appliquer la loi, n'arrivent pas à faire des arrestations, puisqu'il y a cette combinaison de corruption. Ce sont les gens qui sont puissants, qui ont énormément de moyens pour échapper à la loi. Donc, c'est là où ils viennent en jeu.
Merci beaucoup Eric Kabata pour ces précisions.
Oui, merci beaucoup.
Charlotte Nittard, là nous sommes loin des discussions dans les couloirs feutrés des conférences internationales comme celle de la CITES. Hein. Sur le terrain, la lutte contre les trafics, c'est complexe.
C'est très complexe. De toute façon, les conventions internationales, c'est pas non plus un miracle. Ça doit être accompagné de tout un tas de mesures. Et c'est vrai que la lutte anticorruption est un point central de tous les trafics et de celui-ci en particulier. Il y a eu une résolution qui a été acceptée justement sur la corruption et son rôle actif dans le trafic. C'est une résolution qui était présentée par l'Union européenne et qui notamment appelait tous les États à édicter des règles nationales pour punir la corruption. Alors, on certains ont découvert que finalement, dans certains pays, il n'y avait pas de disposition nationale de sanctions d'actes de corruption, ce qui peut paraître incroyable, mais c'est le cas. C'est vrai qu'il y a la corruption. Nous, ce qu'on voit dans notre bulletin à la trace, c'est une vraie disparité des peines. Déjà, une vraie disparité entre les pays d'application de contrebandiers qui sont vraiment déférés devant les tribunaux. Et puis après, on voit des peines qui sont prononcées par les juges et on a beaucoup de mal à savoir si ces peines aussi sont appliquées derrière. Vous avez un pays comme le Zimbabwe qui a tendance depuis quelques mois ou petites années à donner des 8 ans de prison pour du trafic d'écailles de pangolins ou de pangolins entiers, mais on n'a aucune visibilité sur est-ce que le trafiquant, une fois qu'il arrive en prison, il donne une enveloppe et il peut repartir une semaine après, ou est-ce que comment ça se passe concrètement. Donc il y a un vrai problème de gouvernance. Le réseau Eagle y travaille et fait
un travail remarquable
dans beaucoup de pays africains et ça se développe avec la collaboration des ambassades. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les ambassades européennes jouent un rôle actif dans cette veille et que aussi, quand il y a des aides pour le développement, pour l'environnement dans des pays, ça soit accompagné aussi d'un droit de regard. Il ne s'agit pas d'ingérence, mais quand même de s'assurer que voilà, non seulement les fonds qui sont distribués vont bien sur les projets pour lesquels ils ont été attribués, mais aussi que la gouvernance est correcte et que les gens qui font bien leur travail, et il y en a beaucoup, eh bien, ça soit valorisé. Et quand je parle de gens qui font bien leur travail, je pense en particulier aux rangers qui payent le plus lourd tribut en termes de vie humaine à cette lutte contre la fraude, qui des fois
partent... Il y a beaucoup, enfin, je ne sais pas si vous avez quelques chiffres en tête, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'éco-gardes qui sont tués chaque année pour défendre ces espèces.
Pour défendre les espèces, qui des fois partent avec des armes rustiques, alors qu'en face, vous avez des milices armées qui ont des modèles dernier cri, qui sont en sous-nombre. Ils y vont, ils sont hyper courageux. Il y a aussi des femmes maintenant. Là, en Afrique du Sud, on a rencontré les Black Mamba. C'est une unité féminine qui fait aussi beaucoup de pédagogie, de sensibilisation, mais qui est aussi sur le terrain. Et c'est aussi à ce niveau-là qu'il faut que les aides aillent et qu'il faut une valorisation de ceux qui font bien leur travail et qui ne sont pas corrompus. Il y en a.
Oui, il y en a. Alors après, c'est vrai que quand on regarde sur le terrain, vous le disiez, le décalage entre la loi et ses applications, il y a très peu de trafiquants qui sont réellement condamnés. Donc ça n'incite pas non plus à enrayer le trafic.
Non. Il y a une des clés quand même, c'est les saisies. Les saisies en particulier bon, dans les pays d'exportation, mais aussi dans les pays d'importation, là où il y a le marché. Parce qu'un trafiquant dont la marchandise n'arrive pas à bon port, ça lui fait une perte sèche. Perte sèche plus perte sèche, au bout d'un moment, ça dissuade. Donc, c'est un des outils. Il y a la lutte anticorruption, la gouvernance, les rangers, et puis après, il y a les contrôles dans les ports, dans les aéroports. Il n'y a pas de solution miracle, mais par contre, il y a plein de faisceaux d'actions à accomplir d'une manière coordonnée, ce qui est difficile.
Alors, Interpol travaille beaucoup pour essayer d'enrayer ce trafic, mais eux-mêmes disent que c'est une nébuleuse extrêmement complexe.
Que c'est très complexe et puis c'est des nébuleuses opportunistes, multiproduits. On voit que quand il y a des saisies de parties d'espèces menacées, vous pouvez avoir de plusieurs espèces donc qui viennent de différents endroits.
Ça peut il faut être que mélangé. Les douaniers soient formés, c'est compliqué.
Et absolument, ça peut être mélangé aussi avec du matériel électronique de contrebande, de la drogue, des faux médicaments. Donc et puis les contrebandiers, les braconniers ont cet art puisque c'est leur métier quand même, de s'adapter pour contourner les contrôles. Donc, ils sont en perpétuelle évolution, mutation, perfectionnement. Donc, ça nécessite une flexibilité que parfois, les administrations ne suivent pas. Et Interpol fait des opérations de grande envergure, mais qui sont trop ciblées dans le temps et sur certains pays. Alors, ça marche, ça fait des saisies considérables et du volume, mais il faudrait que ça soit finalement beaucoup plus récurrent.
Charlotte Nitard, vous restez avec nous. On se retrouve juste après le flash d'info pour parler toujours de la lutte contre le trafic des espèces sauvages et notamment des éléphants. À tout de suite.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr. C'est pas du vent sur RFI.
internationale.